Onde Femmes, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und élégant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage. Onde Femmes. C'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonsoir et bienvenue dans Onde Femmes Radio Zone 93.8 et aujourd'hui comme tous les mercredis nous nous retrouvons en direct dans nos studios de Ferney. Aujourd'hui pour aborder un point d'extrême importance et d'urgence puisque nous parlerons de la nouvelle loi sur le travail qui sera proposée en votation en Suisse le 1er décembre 1996. Nouvelle loi sur le travail qui a des conséquences importantes sur les travailleuses et les travailleurs et nous analyserons en compagnie de Valérie Boux du site et de Viviane Guenic qui a fait, Viviane, une recherche sur le travail de nuit dans le cadre du Fonds national de la recherche scientifique, eh bien nous analyserons en particulier les mesures qui touchent dans cette nouvelle loi, plus particulièrement les femmes. Alors Valérie, Viviane, bienvenue Viviane, pour une participation particulière dans notre émission aujourd'hui. Je crois que l'urgence, la première chose importante à faire, Valérie, c'est effectivement peut-être de dire quelle, une loi sur le travail en Suisse, quel type de cadre est-ce à l'heure actuelle dans le monde du travail? Ça comprend quoi? Ça spécifie quoi pour les travailleurs et travailleuses?
La loi sur le travail est une loi minimum qui fixe les conditions de, d'hygiène, de sécurité au travail. C'est une loi qui prévoit les pauses minimales, qui fixe le nombre d'heures par semaine, ce genre de choses. Donc c'est une loi minimum. Cette loi, évidemment, c'est pas la seule qui existe. Il existe également le code des obligations, mais qui n'est pas en jeu de la votation. Par ailleurs, ce qu'il faut préciser, c'est qu'en Suisse, nous avons un système de convention collective, à savoir que les syndicats et les associations d'employeurs se mettent d'accord pour des conventions collectives, c'est-à-dire qui fixent les cadres, le cadre des conditions de travail dans une branche en particulier. En règle générale, évidemment, ces conventions collectives sont bien meilleures que la loi sur le travail. Et ces conventions collectives ne touchent malheureusement aujourd'hui qu'environ 50% des personnes qui travaillent.
Juste peut-être spécifier pourquoi il y a ce décalage entre convention collective et loi sur travail. La pression est plus forte sur les parlementaires par le monde économique que dans le cadre d'une négociation autour d'une convention collective spécifique à une branche?
Non, simplement une convention collective, c'est l'objet d'une négociation avec les syndicats. Et évidemment que les syndicats organisent les travailleurs et les travailleuses sur leur lieu de travail. Et c'est souvent l'objet de batailles, enfin de luttes importantes pour améliorer les conditions de travail, améliorer le minimum existant. C'est la raison pour laquelle ces conventions collectives sont meilleures que le minimum légal.
Alors, on vivait jusqu'à, on va vivre, disons, jusqu'au 1er décembre avec une loi sur le travail qui datait du 13 mars 1964. C'est évidemment pas la première. Il y a eu de nombreuses lois qui s'appelaient loi sur les fabriques, c'est ça, Viviane? Mm-hmm. Avant, même qui datent du 19e siècle. Et alors, comment en est-on arrivé à devoir reviser cette loi? Qu'est-ce que la précédente, donc celle de 64, contenait qui ne convenait plus aux parlementaires? Est-ce que c'est une démarche parlementaire qui a provoqué la révision de la loi ou c'est les organisations syndicales qui ont fait pression pour provoquer la révision de la loi?
Non, donc il faut peut-être en effet resituer dans le contexte. Il s'est trouvé que le 25 juillet 1991, la Cour de justice de la Communauté européenne a déclaré la Convention 89 de l'OIT sur le travail de nuit des femmes dans l'industrie comme incompatible avec le principe de l'égalité des sexes. Donc ceci a été au fond le moteur de la modification et des travaux parlementaires pour modifier cette loi. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que les patrons et la droite parlementaire essayent depuis de très nombreuses années de modifier cette loi. Avec l'objectif déclaré de flexibiliser le travail. C'est donc ça la base de cette modification. Donc en quelque sorte, l'égalité est devenue prétexte pour cette modification.
Juste préciser encore une chose peut-être Valérie, cette loi de 64, comment on la situait par rapport aux lois sur travail dans les autres pays, en tout cas nos voisins? Est-ce que c'était une loi progressiste à l'avantage des travailleurs et travailleuses ou bien à la traîne? Comment se situait la Suisse par rapport à cela?
Non, à la traîne. La Suisse a une particularité, c'est justement d'être très en retard dans les protections accordées aux travailleurs et aux travailleuses. Et donc cette loi sur le travail est déjà une loi vraiment minimale par rapport aux autres pays européens. Et d'ailleurs, la Suisse est vraiment en retard sur beaucoup de plans. Et pour citer qu'un seul exemple, en Suisse, on travaille en moyenne 1870 heures en moyenne annuelle, alors que tous les pays européens travaillent nettement moins en moyenne annuelle. Alors par exemple, en France, c'est 1790 heures annuelles, en Italie, c'est 1721, enfin, etc. Donc, disons, sur la durée simplement du travail, c'est évident qu'en Suisse, on travaille plus qu'ailleurs. Et puis par ailleurs, en effet, les protections contre les licenciements, enfin, toute une série de choses comme ça, sont nettement moins bonnes en Suisse qu'en Europe.
Le congé maternité, quand même.
Aussi.
Qui n'est pas inscrit dans la loi.
Rappelons alors quand même que le peuple suisse avait refusé d'introduire un changement d'importance qui était les 40 heures par semaine il y a de ça quelques années. Donc, voilà.
Moi, j'aimerais juste revenir effectivement sur la loi telle qu'elle existe aujourd'hui, la loi sur le travail, par rapport à la question des femmes, puisque c'est ça qui a été le déclencheur de la révision. C'est vrai que la loi sur le travail, aujourd'hui, elle interdit tout travail de nuit. C'est illégal, sauf exception. Puis il y a des très, très, très nombreuses exceptions pour les femmes comme pour les hommes. Puisqu'il y a des femmes qui travaillent de nuit dans des secteurs comme les secteurs hospitaliers ou dans les bars ou dans les cinémas, dans les théâtres, etc. Donc, mais la loi sur le travail jusqu'à présent interdisait le travail de nuit des femmes dans l'industrie, dans le secteur industriel. Et c'est ça que cette fameuse convention 89 du BIT, c'était ça son contenu, c'était donc interdiction totale des femmes dans le secteur industriel. Alors il faut aussi préciser qu'aujourd'hui, le travail de nuit, donc il est interdit, sauf exception clarifiée, mais il est aussi autorisé, permis dans d'autres cas, mais il faut chaque fois demander une autorisation. C'est-à-dire que l'entreprise qui veut, pour une raison ou une autre, faire une semaine, deux semaines de travail de nuit, doit demander l'autorisation, soit au niveau des inspections cantonales du travail, soit au niveau de l'inspection fédérale du travail. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a déjà une très très grande flexibilité. Comme l'a dit Valérie, il y a énormément, le temps de travail est très flexible en Suisse avec la loi telle qu'elle existe aujourd'hui, puisqu'on peut travailler de 6h du matin jusqu'à 8h, sans compter ce qu'on appelle déplacement du travail de jour, qui fait que concrètement, on autorise les usines à travailler jusqu'à 22h, sans problème. Bon, elles doivent demander l'autorisation, mais c'est souvent une
formalité.
Une formalité, oui. Mm-hmm.
Alors, peut-être pouvons-nous expliquer, Valérie, le processus justement qui fait qu'on est arrivé jusqu'à aujourd'hui, à la veille de cette votation du 1er décembre. Bon, il y a eu ce déclencheur qui est le renoncement par le Bureau international du travail ou l'Organisation internationale du travail, du travail de nuit pour les femmes. Et ça déclenche la nécessité, enfin, le besoin de reviser la loi suisse. Alors, ça se passe où? Au niveau parlementaire, strictement, dans un premier temps, avec consultation de qui? Comment ça se passe, la révision de loi, très formellement?
Donc, en premier lieu, il y a un avant-projet qui est déposé. Ce projet fait l'objet d'une consultation large. Et lors de cette consultation, il est apparu que des modifications étaient en quelque sorte admissibles, pour autant que des compensations soient accordées aux personnes qui doivent travailler la nuit, par exemple. Donc, par ailleurs, il y a eu des discussions importantes entre les partenaires sociaux à un haut niveau. Enfin, je ne sais pas si on peut les appeler les partenaires, mais en tout cas, entre syndicats de travailleurs et de travailleuses et d'employeurs. Et il est apparu que, dans le cadre de ces discussions, il y avait un accord pour une compensation de 10% de temps libre supplémentaire pour les personnes qui travaillaient la nuit. Donc, à la suite de ça, une loi, eh bien, ça passe devant les chambres et ça fait l'objet de discussions importantes, des allers-retours entre les deux chambres. Et à ce moment-là, les deux chambres ont décidé de ne pas accorder ces compensations. C'est donc dans ce cadre-là que le Conseil fédéral, qui était également nanti de cette question, a lui considéré que des compensations devaient avoir lieu dans ce cadre-là. Et c'est la raison pour laquelle il s'abstient d'une consigne de vote à ce sujet. Donc, à la suite de la décision par les chambres de cette modification de la loi, il s'est trouvé que les syndicats ont décidé de lancer un référendum contre cette loi, un référendum qui a été... les signatures ont été récoltées à une vitesse très très rapide, 150 000 signatures dans toute la Suisse. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voter ce week-end.
Nous allons refuser.
On va donner notre avis d'abord.
On va voter et bien sûr on va la refuser.
Juste peut-être aussi pour, je crois que ça peut intéresser nos auditrices et auditeurs, c'est que comment un syndicat arrive à se faire reconnaître comme partenaire, en guillemets, dans une discussion comme celle de la transformation d'une loi au niveau fédéral. Par exemple, le syndicat interprofessionnel des travailleurs, le site où tu travailles, Valérie, est-ce qu'il est convoqué dans une telle discussion? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Non, donc ce sont les grandes organisations fêtières qui sont consultés à très très haut niveau. Cela dit, n'importe qui et n'importe quelle organisation a la possibilité, lorsqu'il y a une consultation fédérale, d'apporter son avis et de contribuer à cet aspect-là.
Oui, en effet, les consultations, c'est le propre du système suisse, c'est qu'avant, on essaie toujours d'arriver à un consensus avant même de poser que le problème soit soulevé. C'est toujours cette recherche de consensus qui est de moins en moins véridique aujourd'hui, on le voit bien. Et c'est vrai qu'il y a ce long processus de consultation qui a duré 2 ou 3 ans, je crois, oui. Assez long, où non seulement, par exemple, nous, en tant qu'organisme s'occupant de la santé au travail, on a également été consultés. Donc, c'est des milieux relativement variés qui sont consultés. Toute personne ou tout groupe ou toute institution dont on pense que son avis pourrait apporter des clarifications peut effectivement être consulté.
C'est donc à la suite de ce processus de consultation que l'on va éventuellement modifier le projet et soumettre cette mouture aux chambres.
Alors, je suppose, Valérie, que la pression qui a fait que les chambres ont décidé de renoncer aux compensations pour travail, par exemple, prolongé le soir, etc., c'est fait pas par hasard. C'est la même qu'on retrouve dans la campagne aujourd'hui, à la veille de la votation. C'est les milieux économiques qui veulent à tout prix, comme tu le disais, assurer d'autres conditions de travail et d'engagement et de conditions de travail. Alors, est-ce qu'on peut justement établir un peu les rapports de force? Qu'est-ce qu'il y a en jeu aujourd'hui dans une telle votation? Qui est face à quoi? Avec quel type d'argument?
Oui, donc en effet, l'objectif des milieux patronaux et de la droite parlementaire, c'est de modifier les conditions de l'économie. Et disons, l'objectif, c'est de rendre le plus flexible possible les conditions de travail. Ceci dans un but de compétition nationale, internationale, bien évidemment. Et c'est un discours avec lequel on peut difficilement être d'accord, puisque comme je le disais auparavant, la Suisse a déjà des conditions entre guillemets extrêmement favorables par rapport aux autres pays. D'une part parce que les conditions de travail sont moins protégées, moins bonnes, et puis deuxièmement parce que la productivité du travail en Suisse est extrêmement élevée. Donc, disons, ce qu'il faudrait peut-être expliquer maintenant, c'est quelles sont ces mesures qui ont été proposées dans cette loi, quelles sont les modifications.
J'irais même plus loin dans ton analyse, de dire que ce n'est pas seulement un besoin de flexibilité pour répondre à une compétition internationale, mais c'est le désir de détruire absolument toute protection sociale du travail, que ce soit par l'État ou par les conventions collectives, de manière à vraiment affaiblir totalement la force d'affaiblir totalement la force de travail comme quelque chose de collectif. C'est vraiment d'avoir des gens très faibles auxquels on peut faire jouer n'importe quel chantage, n'importe quelle menace, qu'on peut manier comme on veut. C'est ça, vraiment, à mon avis, le but d'un certain type de patronage. C'est vraiment de rendre les gens les plus faibles possibles. Alors, c'est vrai que cette loi qui existe, elle est pas très importante telle qu'elle existe maintenant, elle n'est pas très importante, mais même ça, ils n'en veulent plus. Donc c'est vraiment la tendance de supprimer toute protection sociale de manière à avoir des gens totalement à leur merci avec lesquels ils pourront faire n'importe quoi. Et moi, à mon avis, l'histoire de la compétition internationale, j'y crois même pas, parce qu'on fait jouer les mêmes arguments ici à Bangkok. À Bangkok, on dit si vous ne faites pas ça, on va aller je ne sais pas où. Et ici, si vous ne faites pas ça, on ira à Bangkok. Enfin, c'est le même chantage qui se joue de façon internationale, de manière à vraiment fragiliser totalement une réponse collective de la part des employés.
Mais on a l'impression quand même que les patrons ne se gênent pas d'avoir entrepris ce système-là bien avant la transformation de la loi. On n'a pas attendu que la loi fragilise les travailleurs pour les attaquer. Donc est-ce que vraiment la loi est une contrainte, va être une contrainte ou l'est, enfin...
Non, moi je trouve que, comme je vous disais avant, il y a énormément de flexibilité actuellement. Il y a trop, en tout cas de la flexibilité comme les patrons en veulent. Ils peuvent faire travailler les gens déjà énormément. Il y a énormément déjà d'heures supplémentaires qui sont autorisées. Puis si elles ne sont pas autorisées, on demande l'autorisation, on les a. Enfin, disons, il ne faut pas exagérer de dire qu'en Suisse, on est dans un carcan tellement incroyable. Je crois que si on calcule toutes les heures admises aujourd'hui, on pourrait travailler 72 heures par semaine. Donc dans 72 heures, il y a le temps de faire tout ce qu'on veut.
Alors, bon, effectivement, je crois qu'il serait bon de rentrer dans le détail de qu'est-ce qui va être transformé entre la loi de 64 et celle qui va être votée samedi, refusée ou acceptée. Effectivement, nous espérons refusée. Et puis, rentrer un petit peu dans le détail des mesures qui touchent plus particulièrement les femmes, même s'il semble évident que la plupart de ces mesures touchent aussi bien hommes et femmes, mais que par rapport à la société dans laquelle nous vivons, les femmes seront touchées d'une façon plus particulière par ces changements. Mais je vous propose d'écouter tout de suite une chanson de Sappho qui parle du travail, la caissière de la BNP.
Oh, a guest, yeah, on the BNP. Hein, ça y est, j'embarque le chargement. Un faux taxi, un pote qui sait tout m'attend. Le système, l'alarme est naze par mes soins. Pas le temps de me rattraper et je suis déjà loin. Je me barre à tout plein vers l'aéroport. Via Brésil, où là, un temps, je fais le mort.
Eh bien, on sait bien que si Sappho était à l'UBS, elle risquerait de perdre son poste de caissière, puisque 800 postes de licenciement sont annoncés et que, comme disait Valérie, quand on en annonce 800, il faut s'attendre au double, comme les bénéfices. Alors, ça, je crois que ces annonces sauvages de licenciement, de restructuration, etc., c'est pas fini de s'arrêter et on a l'impression que c'est pas la loi qui changera grand-chose à la question. Le discours, en tout cas, hein, Viviane ?
Oui, au niveau du discours, vraiment, on assiste à une montée presque sauvage d'un capitalisme. Ouais, on peut reparler de capitalisme sauvage comme on en parlait au 19e, parce qu'il y a un discours d'une arrogance incroyable de la part d'une partie du patronat. Je lisais l'autre jour, la semaine dernière, dans le courrier, une analyse de Rebeo qui rendait compte d'une réunion de décideurs. Qui c'est qui décide qui est décideur, mais enfin bon, ça c'est une autre question, qui a été publiée par la revue du Crédit Suisse, où il y avait vraiment des trucs incroyables, du genre que l'égalité des chances, vraiment, c'est, non seulement c'est ringard, mais c'est contre la nature. Alors moi j'adore, dès qu'on fait référence à la nature, ça m'évoque des souvenirs assez macabres et assez noirs de l'histoire de l'Europe. Et puis que la classe moyenne devait revenir d'où elle vient, on se demande d'où elle vient, depuis son arbre, et entre autres un discours sur l'inégalité, que c'est évident qu'on doit s'attendre non seulement à ce qu'il n'y ait pas d'égalité dans le monde du travail, mais également dans l'éducation, dans la médecine, ça c'est évident qu'il y aura des gens qui n'ont pas droit ni à une éducation, ni à des soins. Alors ce qui est aussi évident avec ce genre de discours des décideurs, c'est qu'eux, ils sont sûrs d'être du bon côté, eux et leur famille bien sûr.
Plus personne ne se cache, en tout cas. C'est ça qui est une évidence aussi, c'est le changement de ton.
Alors vraiment, ce changement de ton, je trouve qu'on le voit vraiment dans les mesures qui sont proposées par la nouvelle loi sur le travail, dont Valérie va peut-être nous expliquer un peu plus les différents éléments.
Oui, donc on ne va pas passer tout en revue. Il y a un certain nombre de dispositions qui sont importantes et c'est de celles-là qu'on va parler. Alors la première modification, c'est que la limite de la journée de travail va passer de 20h à 23h. En d'autres termes, le jour finira à 23h. Alors, ceci est important puisque, évidemment, durant cette période, tant qu'on est dans du travail de jour, il n'y a pas de compensation, ni en temps, ni en salaire. Et c'est donc une modification majeure. Alors, bien sûr, les conventions collectives, aujourd'hui, en règle générale, prévoient des compensations à partir de 20h ou 21h, des compensations en temps ou en salaire. Et cette modification de la loi aura comme incidence une pression sur les négociations et une pression à la baisse, y compris dans les conventions collectives de travail. La deuxième mesure importante, c'est qu'il sera possible de faire 500 heures supplémentaires par année. Jusqu'à aujourd'hui, il était possible de faire 220 ou 260 heures supplémentaires par année. Ça veut dire que, bon, il faut peut-être commencer par là, c'est que la loi sur le travail prévoit un horaire de 45 heures par semaine au maximum et 50 heures suivant les entreprises. C'est donc déjà excessivement long.
Donc ça, on ne change rien par contre. Hein. Alors, partout ailleurs, on diminue, mais en Suisse, on maintient ce qui existe depuis fort longtemps.
Exactement. Et en plus de cet horaire déjà excessivement long, il y avait la possibilité de faire entre 220 et 260 heures supplémentaires par an. Maintenant, on passera à 500 heures supplémentaires, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus besoin d'avoir d'autorisation pour effectuer autant d'heures supplémentaires. Alors concrètement, si on chiffre ce que ça veut dire, c'est que par exemple en 1995, il y a eu 173 millions d'heures supplémentaires qui ont été effectuées en Suisse. C'est l'équivalent de 80 000 emplois à plein temps. Donc aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait des licenciements massifs. Il y a aujourd'hui entre 180 000 et 200 000 personnes au chômage. Ça, c'est que les personnes annoncées. On sait que ces chiffres sont plus importants. Et il est évident qu'une telle mesure est scandaleuse. La troisième mesure qui est très importante, la troisième modification... Ça concerne le dimanche, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, le dimanche est donc un jour chômé où on ne travaille pas, sauf dans certains secteurs d'utilité sociale, d'utilité publique, comme les hôpitaux ou comme ça. Et donc, autrement, pour tout le monde, le travail du dimanche est interdit. Cette révision de la loi prévoit que l'on permettra au commerce d'ouvrir 6 jours fériés ou dimanches par an sans demander aucune autorisation. Alors ça, c'est la porte ouverte à une déréglementation supplémentaire. Vous savez que les commerces assez systématiquement essayent de déroger à la loi, tant en ouvrant plus tard le soir, plusieurs soirs par semaine, et maintenant le dimanche, c'est donc une nouvelle mesure. Et ce qu'il y a d'assez frappant par rapport à l'origine de cette révision, et dont le prétexte était l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, on ne voit pas très bien quel est le rapport entre les ouvertures de commerce et le prétexte. Enfin, il y aura également la possibilité donc de travailler la nuit sans contrepartie, sans compensation, donc de travailler la nuit dans l'industrie pour les femmes, ce qui était donc interdit jusqu'à aujourd'hui.
Par ailleurs, la loi, et c'est là aussi le piège de toutes ces référendums sur les lois, c'est qu'elle propose d'autres points qui ont été imposés par la nouvelle convention du BIT, c'est-à-dire que la nouvelle convention va effectivement autoriser les femmes à travailler dans l'industrie, mais va exige un contrôle et un suivi médical de tout le personnel de nuit, c'est-à-dire hommes et femmes, en disant toute personne qui travaille de nuit doit être suivie médicalement, d'avoir un suivi. Les femmes enceintes peuvent ne doivent pas travailler de nuit, ou les femmes qui allaitent, donc il doit y avoir toute une série de protections, et puis il doit y avoir la possibilité de pouvoir passer en équipe de jour si on ne supporte plus la nuit. Alors ça, c'est dans la loi, mais il faut savoir que ce sont des... On sait très bien que ce sera jamais appliqué parce que, entre autres, le passage à une équipe de jour, déjà actuellement, c'est rarement possible. Les gens qui travaillent en équipe, hein, parce qu'il n'y a pas de travail de nuit tout le temps en Suisse, sauf dans certains secteurs comme les Securitas, etc. Sinon, on tourne, on fait ce qu'on appelle les 3-8 ou les 4-8. Eh bien, de fait, ça n'existe pas. Il n'y a pas de possibilité de passer en équipe de jour parce que ça veut dire changer de métier, changer de travail. Et puis, la plupart des entreprises, encore moins aujourd'hui, l'autorisent. Donc, c'est vrai que c'est inscrit dans la loi, mais on sait très bien que ça va rester lettre morte. Alors, il y a ce côté positif qui est bon, que les gens qui travaillent de nuit seraient mieux protégés au niveau, en tout cas mieux suivis médicalement, mais on sait très bien que ça ne va pas s'appliquer. Par contre, le reste, on pense que ça va s'appliquer.
Oui, mais je crois que ce qu'il faut aussi préciser, c'est que donc la Suisse, on l'a dit tout à l'heure, a dénoncé la convention 89. Par contre, la convention 171 sur le travail de nuit, justement, prévoit un certain nombre de mesures que tu as rappelées, et notamment prévoit une compensation en temps pour le travail de nuit.
Got the world in their pocket, 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 pocket. They've got the world in their pocket, and they're up there in control. They've got the world in their pocket. They can shake it, they can rock it, they can kick it for a goal. They've got the world in their pocket,
but their pocket's got a hole.
Inflation and pollution. Everything's been bought on credit in this rotten institution. And they waste the gentle people, cause the system